podcast de Radio Vatican.
Le 29 et 30 juin prochain, le nouveau président sud-coréen va rendre visite au président américain Donald Trump. Au menu des discussions, la menace grandissante de la Corée du Nord et son programme nucléaire et balistique. Une rencontre capitale alors que Séoul a annoncé au début du mois de juin le gel du bouclier antimissile américain, officiellement en attendant le résultat d'une enquête sur les conséquences pour l'environnement. Mais le président sud-coréen s'était déjà montré réticent au déploiement du THAAD, dont l'objectif est de faire face aux menaces nord-coréennes, un dispositif très mal vu par la Chine, partenaire économique de Séoul, qui estime que le système peut réduire l'efficacité de ses propres systèmes de missiles. Juliette Morillo, experte de la péninsule coréenne, est l'auteur, avec le journaliste Dorian Malovitch, du livre « Sans questions sur la Corée du Nord ». Elle revient sur la rencontre prochaine entre le président sud-coréen et le président américain.
La position du président sud-coréen est particulièrement délicate parce qu'il a été notamment élu par les Sud-Coréens pour un changement de programme et d'attitude avec Pyongyang. Dans son programme, il a annoncé qu'il voulait renouer avec une politique de main tendue envers Pyongyang, ce qui va bien sûr totalement à l'encontre de la politique de Trump. Et les rodomontades et les annonces de Trump récemment voulant régler justement le problème nord-coréen par la force ne sont pas du tout du goût de la Corée du Sud, qui voudrait dialoguer d'abord directement avec Pyongyang.
Alors Séoul a gelé le bouclier antimissile américain en début du mois de juin. Quelles peuvent être les conséquences de cette annonce sur la relation entre les États-Unis et la Corée du Sud ?
Alors forcément très difficile. Il est très clair que les Sud-Coréens ne voulaient pas de ce bouclier antimissile qui en plus a envenimé de façon assez grave les relations de la Corée du Sud avec la Chine. Il faut savoir que la Chine et à moindre mesure la Russie se sent visée par le fameux bouclier antimissile. Donc pour l'instant ça a été gelé et bien évidemment ça va encore une fois de plus rendre la situation tendue avec les États-Unis et Donald Trump. Donc la rencontre de Moon Jae-in et de Trump à la fin du mois de juin est absolument capitale.
Alors le président Moon affiche une politique de main tendue, vous nous le disiez, avec la Corée du Nord. La nomination du responsable de la question nord-coréenne va dans ce sens justement ?
Oui, la nomination de Cho Myung-yoon au ministère de l'Unification va en effet dans ce sens, puisque lui-même avait travaillé avec No Moo-hyun et avec d'autres gouvernements pour justement mettre en place notamment les grandes rencontres entre Pyongyang et Séoul. Et il avait également participé à l'organisation, à la mise sur pied de la zone économique spéciale de Kaesong, qui est une zone de coopération intercoréenne qui avait été ouverte en 2004 et qui a été fermée en 2016. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît le terrain, qui a l'habitude de travailler avec les Nord-Coréens et qui veut un dialogue direct avec Pyongyang parce que, après tout, faut pas oublier, ce sont des frères ennemis, mais ils restent néanmoins frères et se connaissent et ne veulent pas passer par un intermédiaire américain.
Quel serait l'intérêt de la Corée du Nord de reprendre le dialogue avec Séoul ?
La Corée du Nord, de tout temps, a demandé un dialogue bilatéral. C'est-à-dire que la Corée du Nord, finalement, elle maintient la même position, c'est-à-dire qu'elle, petite Corée du Nord, c'est un petit peu David contre Goliath, veut être capable de dialoguer directement avec Washington. C'est pour ça qu'elle se sent menacée. Elle pense que seule l'arme nucléaire lui garantit un dialogue direct. Mais même chose également avec Séoul. Elle ne veut pas être au banc des nations. Elle veut une reconnaissance diplomatique. Et surtout, ce qu'elle veut, c'est la signature d'un traité de paix sur la péninsule qui est le préalable, finalement, à toute avancée dans le dossier nord-coréen. Techniquement, Corée du Nord et Corée du Sud sont toujours en guerre depuis la signature de l'armistice en 1953. Et c'est pour ça que les tensions ne s'arrêtent pas finalement sur la péninsule. Donc la péninsule a l'impression, alors au sud, si j'emploie le terme péninsule, c'est que je parle des Coréens au sud comme au nord, finalement ont l'impression d'être un petit peu le jouet de l'histoire et s'affrontent de part et d'autre de ce fameux 38e parallèle, finalement deux blocs qui sont les cicatrices de la guerre froide. Donc, en préalable à toute chose, il est nécessaire d'aboutir à un traité de paix qui permettra éventuellement une reconnaissance diplomatique, et après seulement les choses pourront avancer. C'est pour ça que Pyongyang a intérêt à avoir un dialogue direct avec Séoul et avec Washington.
Et est-ce qu'on sait comment Pyongyang voit le président Moon et a vu son élection ?
Alors, Pyongyang accueille plutôt positivement, bien évidemment, mais prudemment aussi, l'élection de Moon Jae-in. L'élection de Moon Jae-in a mis quand même fin à 9 années de politique extrêmement dure et de durcissement envers la Corée du Nord. Donc il y a pas mal d'espoir du côté de la Corée du Nord, mais il faut savoir mesure garder. De même, si Moon Jae-in, pour l'instant, offre dans son programme et dans ses intentions la possibilité de renouer le dialogue avec Pyongyang, la situation, rien n'est sûr pour l'instant. La péninsule reste quand même en proie à des tensions très graves et on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a l'interrogation américaine et puis toujours un risque de dérapage, peut-être à la suite d'un essai nucléaire nord-coréen ou une réaction intempestive ou un essai de missile balistique raté. On n'est pas hors du danger malgré ce qu'annonce le président Moon Jae-in.
Des propos recueillis par Sarah Bakaloglou.